Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question d'Albert Camus. Ça peut surprendre peut-être quelques personnes, mais soyez sans crainte, c'est un homme admirable qu'Albert Camus. En dépit de son incroyance, il s'est arrêté, en fait, ce philosophe, cet écrivain admirable, il s'est arrêté devant l'absurdité de notre destin. Nous sommes souvent nous-mêmes croyants un peu pris devant cette absurdité du destin de l'homme. Tellement de choses nous semblent absurdes dans l'existence. Ces immenses panneaux de souffrance qui recouvrent la terre, quand ce n'est pas notre propre cœur, notre propre désespoir au fond de nous, hein, devant ce que nous sommes, pécheurs, pécheurs invétérés, être flou. Nous avons donc de la difficulté à être des saints, tellement difficile. Et Albert Camus est mort en 1960 de façon tragique, dans un accident de voiture. Chose étrange, l'absurde l'a accompagné jusque dans la mort. Il était jeune encore et il devait rentrer par train à Paris. Et il était lecteur chez Gallimard, ce grand éditeur qui publiait ses ouvrages, comme j'ai ici en main Les Justes, cette pièce en cinq actes de Camus, publiée chez Gallimard. À l'époque, j'avais acheté ça car j'avais vu Les Justes à Paris avec Serge Reggiani. Et puis, il est mort parce qu'il a accepté, comme on dit en québécois, un lift de Gallimard. Ils sont entrés en voiture, ils ont dérapé, sont fracassés contre un arbre. Absurde. Durant la fin de semaine, je suis allé chez une amie, Madame Vanier-Vincent, qui m'a offert un très beau livre, publié chez Desclés de Brouwer, et écrit par un bénédictin de la congrégation de la Pierre qui vire, où je comptais rentrer quand je suis parti pour l'Europe en 1949, il y a déjà près de 50 ans. C'était mon rêve de faire comme il a fait le père Jean de la Croix-Robert, qui est entré à la Pierre qui vire et qui est devenu abbé de Landévennec, et maintenant il est retiré. Et il écrit dans ce beau livre, donc « La falaise et l'horizon », dans un chapitre intitulé « De l'absurde à la lumière », c'est un peu le drame de tous ces gens qui, comme Albert Camus, sont enveloppés de l'absurde et cherchent la lumière. Il écrit donc que ce moine bénédictin, face à l'absurde, l'homme, comment porté loin des autres et de lui-même, ne se retrouve plus. Selon la parole du psaume, il n'est plus que fétu de paille balayé par le vent. Et on trouve ça dans la Bible. Vous savez que la Bible nous parle beaucoup de l'absurde de la vie humaine. Vous savez? Oui, sûr, c'est sûr. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Il y a un cri de désespoir presque là-dedans. Et il y a une lumière d'espérance en Dieu. Et le moine bénédictin ici, dont Robert, Jean de la Croix-Robert, ajoute... La solitude et la souffrance adoucissent parfois le cœur souvent trop dur ou l'esprit trop rigide et catégorique. Oui, la solitude et la souffrance adoucissent. L'absurde, lui, n'apaise rien, dit-il. Il ne peut que conduire à la révolte, qui est peut-être le signe le plus tragique d'Albert Camus, la révolte. Donc, il ne peut que conduire à la révolte ou au plus complet des désenchantements. Et nous voici comme jamais impuissants devant la mort et démunis complètement. Que faire en effet quand il advient et qu'il nous tient, que ce soit de notre plein gré ou sous la contrainte de situations incontrôlables? C'est un très beau livre écrit par un moine, un contemplatif. Ça rejoint la pensée d'Albert Camus, qui est né en Algérie le 7 novembre 1913 à Mondeville, dans ce beau pays de soleil qu'est l'Algérie, né de parents pauvres. Sa religion, sa famille est de formation chrétienne, d'accord. Il a un fond chrétien chez lui. On l'a baptisé, mais sa mère ne pratique plus. Et sa grand-mère est catholique pratiquante par tradition, mais n'est pas drôle. Et Camus va évoquer cette femme illettrée et superstitieuse qui lui inculquait une idée déplorable de la religion. L'année suivante, moins d'un an après sa naissance, le 3 août, Il y a la Première Guerre mondiale, puis il y a la mort de son père qui est tué à la bataille de la Marne le 11 octobre, à peine 2 mois après le début de la guerre. Il est déjà orphelin. On dit de lui, lorsqu'Albert Camus évoquait son père, c'était avec une véritable distance. Aucun témoin à même d'en parler, ni presque aucun document ne subsistait pour combler l'abîme sans fond qui séparait un père décédé des suites de ses blessures à la bataille de la Marne et un enfant âgé de moins d'un an à l'époque du drame. Alors, cette absence d'image paternelle sera évoquée par Albert Camus dans le post-scriptum d'une lettre à Jean Grenier. Jean Grenier, qui a eu une énorme influence sur lui, qui a d'ailleurs écrit dans la Pléiade, vous savez, la collection de la Pléiade, ces beaux livres sur papier, Bible, magnifique, c'est des livres superbes. Et l'œuvre de Camus est dans cet ouvrage, plus de 2000, ou presque 2100 pages. Il a écrit une préface admirable, ce Jean Grenier, que je vous recommande si vous avez ce beau livre, Albert Camus, Théâtre, Récits et Nouvelles. Donc, dans un post-scriptum d'une lettre à Jean Grenier, écrite à Paris le 20 février 1946, au lendemain de la guerre, il écrit « J'ai perdu mon oncle Acco, mort subitement, comme il disait le désiré. C'était le seul homme qui m'ait fait imaginer un peu ce que pouvait être un père, que j'ai perdu alors que je n'avais qu'un an. » Et Camus vit pauvrement dans un appartement exigu. Son milieu, ben, c'est sa mère qui fait des ménages, sa grand-mère qui est autoritaire, puis un oncle infirme, puis son frère Lucien. C'est pas drôle, hein? Alors Camus, à 17 ans, entre en contact avec la philosophie. Son professeur, c'est Jean Grenier, justement, dont, comme je vous ai dit, l'influence a été, de l'aveu même de Camus, déterminante, hein? Il va même lui dédier l'envers et l'endroit, puis son fameux livre, L'homme révolté. Il s'intéresse aussi au théâtre. Il a fait des adaptations même d'une œuvre de Calderón, ce grand auteur espagnol de grande tradition chrétienne, catholique. Et il a fait des adaptations magnifiques au théâtre. Le dimanche, eh bien, il joue football avec le Racing, comme on dit, universitaire. Un jour, après un match, il prend froid puis subit les premières atteintes de la tuberculose qui va l'accompagner. La maladie, d'ailleurs, va jouer un rôle indiscutable dans la vie puis l'œuvre d'Albert Camus. C'est sa première rencontre, on peut dire, fatidique avec le problème du mal et de la douleur. C'est un homme qui va être terrassé par le mal et va rejeter Dieu, comme tant de gens le font. Jeune, il perçoit déjà l'envers et l'endroit de l'existence. Alors Albert Camus quitte la maison familiale, qui est impropre à son état de santé, puis s'installe chez son oncle Acco, dont il a parlé tout à l'heure, qui est mort, un anarchiste. C'est le début d'une vie fort indépendante. Là, il change de logement à plusieurs occasions, puis il mène une vie déréglée. Et il écrit « Mon goût pour André Gide ». Cet homosexuel qui prêchait une espèce de néant, pas à la façon de Sartre, mais une autre forme, alors, qui était d'origine protestante d'ailleurs, mon goût pour Gide redouble en lisant son journal. C'est vrai que c'est fascinant, Gide, qu'on dise ce qu'on voudra. Il ajoute, n'est-ce pas, qu'il est humain. Je continue à le préférer à tout autre écrivain. Par un effet inverse, je déteste Cocteau. C'est vrai, j'ai beaucoup lu Cocteau aussi, et je dirais que j'ai préféré Gide aussi, en effet. Et il ajoute dans le post-scriptum, Platon m'aide à préparer la philosophie. Comme le note Jean Grenier, là, à cette époque-là, il ne pensait pas qu'il dût un jour cohabiter avec Gide, comme il le fit quelque temps rue Vaneau à Paris. Avant cela, il avait lu les œuvres complètes d'Anatole France chez son oncle Acco. Vous connaissez Anatole France, hein, un autre. Je m'en ai déjà un peu parlé d'Anatole France il y a 3 ans. Il lisait aussi Max Jacob. Je lui ai consacré 2 émissions sur Max Jacob. Il lisait aussi Max Jacob, que j'aime beaucoup, c'est un juif converti, hein, avec lequel il entretenait en plus un échange épistolaire. Et Proust, Marcel Proust, dont il pensait que c'était un créateur. Dans sa correspondance, donc, avec Jean Grenier, qui sera le maître, son maître, jusqu'à sa mort, ainsi que conseiller de ses lectures, puis même un prélecteur ou, si vous voulez, un correcteur de ses ouvrages. Il évoque quelquefois sa maladie à partir de cette date. Il a en même temps quelques problèmes d'entente avec son oncle Akko. Une différence de conception sur un sujet délicat, c'est son projet de mariage avec Simone Hillier, fait que son oncle m'a demandé de partir. Donc, en 1935, il y a un mariage civil de Camus, à 21 ans. 21 ans seulement, avec Simone Hillier. Ça durera pas, d'ailleurs. Fille d'un médecin d'Alger. Les deux cherchaient, au fond, un amour impossible. En 1935, toujours à 21 ans, quoi, il adhère au Parti communiste, suite après son mariage, suivant les conseils de Jean Grenier. Et on lui confie la propagande en faveur du communisme chez les musulmans. Et l'année suivante, Camus présente son travail pour le diplôme d'études supérieures qui traite des rapports entre l'hellénisme chez Plotin et, c'est pour ça que je le mentionne, le christianisme chez Saint-Augustin. Et c'est à travers cette étude, en particulier Saint-Augustin, qu'il a surtout connu la philosophie chrétienne et en particulier l'augustinisme. Et comme vous voyez, il y a un fond chrétien assez sérieux chez lui, chez cet athée au fond. Le 17 juillet 1936, la guerre civile éclate en Espagne avec le soulèvement du général Franco, puis se battra jusqu'au bout contre le franquisme. Et il laisse finalement, en 37, le Parti communiste, ça lui prend pas de temps, à cause d'un désaccord sur le changement de politique du Parti communiste envers les musulmans, puis il refuse la ligne du parti, puis il en est exclu. Ça arrive souvent chez ces gens-là, ils sont exclus du Parti communiste dès qu'ils dérogent le moindrement, hein. Et puis, le 3 septembre 39, c'est la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Hitler s'était entraîné, saviez-vous, en Espagne pendant la guerre civile. Et il était prêt. Albert Camus, qui s'était attaqué à Franco, condamne maintenant Hitler avec la même vigueur. Il tentera de s'engager par solidarité, mais en vain, à cause une fois de plus de sa santé, la tuberculose. À 26 ans, en 1940, il quitte l'Algérie suite au refus de se plier à la censure journalistique. C'est pas d'aujourd'hui qu'une censure journalistique en Algérie, comme vous voyez, et autres problèmes. Puis il entre au journal Paris Soir sur recommandation de Pascal Piat, et puis il habite un hôtel. Et là, en octobre de la même année, il s'installe à Lyon, où il rencontre celle qui va devenir en décembre sa deuxième femme, c'est Francine Faure. Une oranaise, elle vient d'Oran. Vous savez, l'évêque d'Oran a été assassiné il n'y a pas si longtemps, là. Il y a 2 ans, je crois. Je vais vous en parler un jour de ce merveilleux évêque d'Oran, en Algérie. Elle est aussi professeure de mathématiques. Et puis, en décembre 1942, il publie le fameux « Le mythe de Sisyphe ». Hein, vous connaissez ça, le mythe de Sisyphe? Là, celui qui repousse sa pierre en haut de la montagne, puis elle retombe toujours. Ça va faire de Camus, ça, aux yeux de certains critiques, un philosophe désespéré. En 1943, Camus devient lecteur chez Gallimard, comme je vous ai laissé entendre tout à l'heure. Le 8 mai 45, il apprend la nouvelle de l'armistice en compagnie de son ami André Gide. Et le 5 septembre, il y a la naissance de ses jumeaux, Jean et Catherine Camus. Puis en 46, Albert Camus publie le fameux, en juin, La Peste. Quel roman admirable. Livre qui remporte un immense succès, peut-être le livre le plus sympathique, dit-on, de Camus, dans lequel le problème de la solidarité humaine est exposé comme solution au problème du mal commun, qui est la peste qui nous envahit tous. Et en septembre 48, ben, il prend contact plus profondément avec le christianisme pendant un séjour mystérieux chez les Dominicains de Saint-Maximin où je suis allé. C'était un grand couvent rempli de Dominicains en costume. C'était très, très impressionnant. Grâce à son ami, c'est le père Raymond Brugberger, ce fameux Dominicain. Et puis, il publie l'état de siège et pendant toute l'année 1950, il se repose. Mais avant ça, c'est vrai, en 49, il va faire un effort pour se rendre à la première des Justes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sa pièce, créée en décembre par Serge Reggiani et Maria Cazares. C'est ça que j'ai vu, moi, à cette époque-là, à Paris. Oh, c'était superbe. Il écrit mon essai sur la révolte. L'homme révolté, c'est un livre magnifique, avance, mais je ne suis pas sûr de terminer. Pendant toute l'année 1950, il se repose puis travaille à la composition, donc, de l'homme révolté. Et Camus sent le besoin d'être rassuré par son ami Jean Grenier. Il écrit « Il se peut que j'ai terminé en avril un premier état de l'homme révolté. J'aurai le plus grand besoin lors de vos critiques avant de le reprendre. » Et puis, il y a la publication donc de l'homme révolté en 51, suivie d'une longue polémique. Et dans ce livre, un des deux livres à idées de Camus avec le mythe de Sisyphe dont je vous ai parlé, bien Camus continue la réflexion commencée autour du suicide et de l'absurde dans le mythe de Sisyphe. Et ce sont ces deux ouvrages de synthèse. Et puis le 17 octobre 1957, écoutez bien ça, le prix Nobel de littérature lui est décerné pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Et là, le 10 décembre, il reçoit le prix Nobel. Puis le 14, il définit une fois pour toutes sa fidélité à la Terre. Il s'explique comme ça. Les uns diront que cet espoir est porté par un peuple, d'autres par un homme. Je crois qu'il est au contraire suscité, ranimé, entretenu par des millions de solitaires. Nous sommes tous, d'après lui, donc des solitaires, et nous devons avoir malgré tout un espoir. Mais en 58, sa santé est mauvaise. Le 15 novembre, il s'achète une maison à Lourmarin, où il est enseveli, en dehors de Paris. Et c'est dans cette région qu'il a découvert en 1947 qu'il se retire souvent, pour prendre des vacances en compagnie de sa femme Francine, dont je disais de sa deuxième femme, et de ses deux enfants, ses deux jumeaux. Puis le 4 janvier 1960, Albert Camus est tué, donc dans un accident d'automobile, alors qu'il revient de Lourmarin, justement, à Paris, dans la voiture de Michel Gallimard, son éditeur. Et ainsi, on peut dire que l'absurde finit, comme toute chose, avec la mort, hein. Pour la biographie que je viens de vous faire en résumé, très très résumé, je me suis inspiré d'un ouvrage publié ici au Québec, aux éditions Pauline. C'est un ouvrage d'un Basque, Jon Erkoreka, et c'est sans doute le fruit de sa thèse qu'il a passée ici au Québec. Et c'est intitulé simplement Albert Camus, « Tout savoir ou rien ». Oui, « Tout savoir ou rien ». De Jon Erkoreka, aux éditions Pauline. C'est un petit livre fort bien fait, en gros caractères, qui explique bien, très bien même, la situation dans laquelle s'est plongé Camus, comme tant de gens, parce que c'est, au fond, c'est très simple. Quand on y pense, quiconque dispose d'un peu de fierté, j'espère que nous en avons tous, nous ne pouvons que nous cabrer devant un abus de pouvoir. Le chrétien, d'abord, est essentiellement, en même temps qu'un homme d'espérance ou une femme d'espérance et d'amour, un être révolté. L'Évangile, c'est révolutionnaire, mais le Christ, c'est un très grand révolutionnaire quand on y pense, mais très doux et plein d'amour. Et nous avons entendu ce matin aux nouvelles, justement, ce curé de Nazareth qui est un révolté devant la situation qui est faite à son peuple et qui se révolte dans l'amour. Mais c'est un peu ça chez Albert Camus, mais pas sous le regard vraiment de l'Évangile. Les hommes souffrent et meurent, ils n'ont pas mérité cela. C'est clair. Et Albert Camus, qui est un Français, espagnol par sa mère, se révolte contre ce qui semble une injustice. Bon, il pourrait bien être chrétien, on pourrait dire, mais non. Car n'allons pas croire que le sentiment de l'absurde, de toute façon, est rien d'exceptionnel. C'est, au fond, tout homme ressent ça à un moment donné, il me semble. Et ses ouvrages comme L'étranger, ou bien sa pièce de théâtre Caligula, qui est une espèce de portrait d'Hitler, de Staline, si vous voulez, une espèce de Caligula épouvantable, témoignent à jamais de l'horreur qui est vécue par tous. Les étrangers, c'était ces millions de combattants ahuris qui s'étaient jetés les uns contre les autres dans la guerre ou dans la vie humaine, simplement, et qui se livrent à leur tâche de tueurs avec une indifférence glacée. On le voit chez des membres des clubs de motards. Hein. C'est chez nous, mais en Europe, ils ont vu ça dans les champs de bataille. Si les condamnés à mort ne peuvent savoir ni pourquoi ils vont mourir, ni même pourquoi ils auront vécu, alors il en arrive à la conclusion qu'il n'y a ni bien ni mal, mais il reste pas dans cette conclusion, hein? Parce que c'est la conclusion à laquelle arrivent certains athées, ça. Alors ils arrivent à dire que tout est permis, tout est indifférent, et c'est pourquoi nous avons assisté à des massacres dans ce siècle que les athées ont fait, 100 millions de morts, quoi. Pourquoi ne pas s'amuser à tout massacrer autour de soi, hein, comme l'a fait Hitler et Staline? Qui oserait condamner Caligula dans ce monde sans juge? Alors, libre à chacun d'ailleurs de quitter cette vie peu ragoûtante, alors il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide, alors pourquoi pas en finir tout simplement, hein? Et le premier mérite d'Albert Camus, qui est très attachant, je vous le répète, est d'avoir discerné qu'une vision absurde du monde appelle le suicide, individuel et même collectif. Mais, faut bien spécifier que son second mérite est de s'être cabré devant cette conséquence, et il nous fait un devoir de vivre, je le répète, il nous fait, Albert Camus, un devoir de vivre, au nom de quoi? Et ici apparaît la révolte. Il ne faut pas crier trop vite à la fragilité de la morale qu'il va nous proposer. Dans l'absence de toute foi, nous voici un homme qui se débat, qui s'agrippe, qui cherche un terrain ferme où assurer son pas, où asseoir une raison de vivre, c'est pas facile, hein, ses gestes sont maladroits, et parfois même sa logique. Mais je vois pas qu'il y ait lieu de rire, même si j'ai souri. Il en arrive à dire « Je pense comme un révolté, et je pense donc que je suis. » Et d'abord, il parle de son devoir de vivre, mon devoir de vivre, ma révolte me donne à la fois la conscience de moi-même et celle de ce monde auquel je suis scellé. Il écrit comme la haine seule peut river les êtres. Alors, affronté à mon destin épouvantable, je le tiens en respect. Ma révolte est vigilante, sans résignation et sans espoir. Ma révolte impose un sens au non-sens. Me tuer serait éteindre la seule valeur pour moi qui puisse luire en ce monde. Je répète, comme il est acculé au suicide, il dit « Me tuer serait éteindre la seule valeur pour moi qui puisse luire en ce monde. » Et c'est pour ça qu'en 1942, au bruit des fusillades d'otages, Camus juge le suicide interdit. Le suicide était alors la question, comme elle revient aujourd'hui au Québec. Aujourd'hui, vous avez vu le numéro de la revue L'Actualité, récemment, la revue principale, la plus populaire au Québec. Aujourd'hui, c'est aussi le meurtre. Le meurtre. Camus disait, en 50 ans, on a déraciné, asservi et tué 70 millions d'hommes. Moi, je vous ai dit que c'est en 75 ans que 100 millions d'hommes, en ce régime communiste, athée, je le répète. Or, la révolte est ce juge que nous cherchions pour condamner Hitler, Staline, Caligula. Là. Mais ça ne suffit pas de l'analyser. La révolte implique un non et un oui. Alors, le révolté dit non à celui qui empiète sur ses droits. Mais par le fait même, il dit oui à ces droits-là. Alors, contre une intrusion jugée intolérable, il affirme l'existence d'un domaine sacré sur le plan humain. Et s'il meurt pour le défendre, c'est que débordant sa vie éphémère, ce bien est commun à tous les hommes, et c'est ça qui est sacré, le bien commun à tous les hommes. Ainsi, l'homme absurde, c'est-à-dire, celui qui prétend que cet univers est sans but, puis il n'a aucun sens, eh bien, cet homme recherche quoi? Échappe-t-il à la solitude? Alors il se regroupe. La révolte n'est donc pas comme le ressentiment. Elle n'est pas négative et égoïste, d'après lui. Positive, la révolte de Camus nous révèle le bien suprême qui mérite qu'on meure pour lui. Et elle fonde la fraternité humaine. Il dit « Je me révolte, donc nous sommes... » C'est presque chrétien. Mais ça ne l'est pas, évidemment, vous le savez bien. Alors que valent ces idées-là? Après tout, la révolte n'est qu'une abstraction. Au cours des deux derniers siècles, les pionniers de la pensée et ceux de la politique s'efforcent d'écarter Dieu de l'horizon humain. Dieu est disparu. Vous avez jamais vu un calvaire dans le métro? On voit des calvaires sur les routes de campagne. On voit pas de clochers dans le métro, puis on en voit de moins en moins dans nos rues, les églises sont fermées, ça devient triste, Dieu disparaît de l'horizon humain. Et puisque la révolte se déploie dans l'histoire, nous allons pouvoir, avec Camus lui-même, la juger sur les faits. Où nous mène cette révolte, cette absence de Dieu? Où? C'est au Dieu personnel, et non à un vague destin, que la révolte, chez nous, demande personnellement des comptes. Les écrivains commencent par blasphémer Dieu, puis le traitent d'égal à égal, et alors ils le citent devant la justice humaine. Enfin, ils le déclarent déchu, puis ils le condamnent à mort. Ils disent « Dieu est mort », hein, c'est Nietzsche qui l'a dit surtout, mais beaucoup d'autres. On continue à le dire. Ils s'acharnent contre ce qui reste de Dieu dans la conscience des hommes, c'est-à-dire la morale. Alors ils se disent « la place est nette ». Et sommes-nous seuls, enfin, puis libres, puisque Dieu n'existe pas? Non, car la création elle-même nous rappelle le Créateur. Et on l'a vu à la télévision quand on nous montre la naissance d'un enfant, encore à l'émission, mon Dieu, avec Monsieur Tisser, là, dimanche. C'était si beau, les miracles que Dieu fait au moment de la naissance d'un enfant, et toute cette création. Vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles et aujourd'hui les questions de ce très grand écrivain, prix Nobel, Albert Camus, homme d'inquiétude, homme d'angoisse, mais un homme de grande espérance dans l'homme. Et en cela, il est admirable et nous pouvons lui donner la main et l'aimer beaucoup. Mais j'aurais aimé qu'il lise le début de l'évangile de la messe aujourd'hui dans l'église catholique d'un bout à l'autre du monde. Des millions de gens aujourd'hui vont aller à la messe. Oui, des millions. Beaucoup plus qu'on pense, vous savez. Et qui vont entendre cette parole. Quatre lignes, cinq lignes. C'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 6, vers la fin du chapitre. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Ah, c'est bouleversant ce texte. Parce que, de quoi s'agit-il pour tous ces gens qui se révoltent contre Dieu? Il s'agit pour eux de créer un monde spirituel qui ne doive rien à Dieu. Et si, en effet, bien, on arrive à porter notre humanité à une sorte, disons, d'incandescence, alors nous la réalisons pleinement sans la grâce. Si la merveille transfigure toutes nos heures, la merveille de la vie, oui, mais quand on est paralysé, c'est plus pareil, hein, alors le feu du ciel est vraiment parmi nous, disent-ils, et Dieu devient inutile. Mais Dieu soit toujours utile pour les malades, les pauvres, les petits. Et il est utile aussi pour les riches qui sont noyés dans leur argent et leur gloire et leur puissance. Dieu n'est pas utile. Il est Dieu. Mais ils ne le comprennent pas et alors, eux, ben, tout se passe comme s'il n'existait pas. Il n'existe pratiquement plus. Hein. Ils se disent, nous sommes libres, libres. Il s'agit seulement de savoir si ce pari peut être tenu, et Camus constate, lui, qu'il ne l'a pas été. Il s'en rend compte. C'est là que je l'aime. Et cet immense effort littéraire et poétique qui s'étend sur 2 siècles et demi avant lui n'est évidemment pas risible. Au contraire, c'est tragique dans son intention. Mais pourquoi ne pas oser dire très haut ce que tout le monde aujourd'hui pense tout bas? Il est dérisoire dans ses résultats. Regardez les résultats. Camus le dit, l'écrivain, bien entendu, n'a rien à se refuser. Mais on peut ajouter, les blasphèmes de Sade l'ont étouffé lui-même sans tuer Dieu autrement qu'en effigie. Quant aux surréalistes des années 20, puis aux automatistes des années 40 et d'aujourd'hui, de Bourdieu, je vais vous en parler bientôt, ils avaient juré de n'être pas des littérateurs. Oh non, ils faisaient plus que ça, disaient-ils. Il ne fabriquerait pas, comme les confrères précédents et tout le monde, un monde en papier, non, non, mais un univers à la fois aussi éblouissant que celui de l'Apocalypse, pourrait-on dire, et aussi présent que le nôtre. Allez y voir, grand Dieu. Dieu est mort, alors il faut bâtir l'histoire, disent-ils. Tenter de donner à l'homme son règne dans le temps, ajoute-t-il. Mais on le voit, la révolution n'est que la suite logique de la révolte métaphysique. La révolution, oui, elle suit comme ça. Alors il y a une croisade métaphysique démesurée, finalement. Alors là, il n'y a plus de repos. Et depuis 1789, depuis plus de 200 ans jusqu'à nos jours, un remous puissant soulève et brasse les peuples, libérés de l'obéissance à Dieu, puis impatients de réaliser par leur propre force, l'équivalent de ce que leur promettait le corps mystique. L'union, c'est-à-dire de tous les hommes, dans l'innocence, la justice et le bonheur. C'est ça la vraie révolution. Mais encore faudrait-il que nous soyons révoltés, nous chrétiens, et que dans notre innocence, nous cherchions la justice et le bonheur, vrai pour vrai, là, pas avec des pièces de 10 sous. Comment vivre sans la grâce, écrit Camus. C'est la question qui domine le 19e siècle. Mais comment vivre sans la grâce? Il n'est pas question de suivre avec Camus la marche de la Révolution depuis les régicides, la mort du roi en 1793-92, au moment de la Révolution de 1789. Là. Eux, ces hommes tueurs de rois qui croyaient instaurer l'âge d'or, jusqu'au régime de Staline, puis de Pol Pot, puis de tous ces gens-là, Hitler et tout ça. C'est trop. Il y a un panorama qui s'étend de Saint-Just au moment de la Révolution française, ce jeune homme-là, jusqu'à Lénine, en passant par Hegel, Feuerbach, dont je vous ai parlé, Auguste Kant, les terroristes russes, Mussolini, Hitler. Tout ça peut être intéressant, mais alors, passons. C'est l'impression d'ensemble qui s'impose, puis le bilan dressé par Albert Camus lui-même n'est pas seulement déficitaire, il est catastrophique. La révolte historique a fait faillite. Pourquoi? Parce que l'homme sans Dieu a fait faillite, puis il fait faillite de plus en plus. Je le répète, l'homme sans Dieu fait faillite. Est-ce qu'on va le comprendre? On s'était insurgé contre Dieu au nom de l'innocence humaine, puis en protestation contre la mort. Et voici que tout le monde tue ou laisse tuer. Je vous en ai parlé le 28 décembre lors de la fête des Saints Innocents. Nous tuons des millions et des dizaines de millions d'enfants à naître. Je vous le rappelle, avez-vous regardé ces émissions découvertes à Radio-Canada? Avec M. Tisser. Ça fait mal au cœur, et les puissants comptent tous ces enfants esclaves dans le monde. On dit qu'il y en a peut-être 250 millions actuellement qui travaillent à des salaires de famine dans des conditions abominables et qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Sans compter tous les autres qu'on attaque. Sans compter tout le reste. Sans Dieu. Sans Dieu. Où règne l'argent. Les contraintes religieuses abattues, on s'en est créé d'autres qui sont intolérables, absolument intolérables. On se disait trop fiers pour se recourber devant Dieu, puis on s'incline devant les dictateurs. Les dictateurs de l'argent. Les passionnés de la révolte se ruent à la servitude. On a refusé la religion d'éternité. Et qu'est-ce qui est arrivé? On est entré dans la religion, disons, de l'histoire, et finalement dans la religion de l'argent. À l'avenir déifié, on dit que l'avenir c'est Dieu, ou on ne sait pas trop quoi, alors on immole non seulement des corps, mais des âmes aussi, et les enfants se suicident. Oh, on les exfusie savamment dans nos journaux, nos revues, nos émissions de télévision et tout ça. Puis on réduit tout au social, où on dit que le suicide, ça dépend des psychologues et des psychanalystes. Eux vont sauver nos enfants du suicide. Ha! Puis on parle de l'économique qui va sauver le monde. La quantité. Mais une vie intérieure quelconque permettrait encore une respiration dans l'éternel. Un appel au transcendant. Me semble qu'une prière, vaut bien des choses. On ne gouverne plus des personnes, on administre des choses. La solitude de ces fantômes d'hommes interchangeables n'a jamais été plus profonde. mais tout autre que le théoricien de la révolte conclurait que les fruits jugent l'arbre, que la révolte a fait ses preuves, qu'il est grand temps de nous en détourner, mais Camus ne veut pas se dédire, lui, jusqu'à la fin. Bonne dans son principe, la révolte, dit-il, a seulement dévié en cours de route. Bon, alors Dieu déchu, l'homme s'est divinisé, mais fait pour le relatif, il a ambitionné l'absolu, l'homme. De l'attente de démesurer de sang, hein. Il dit qu'il faut refuser d'être Dieu. Et Camus, en fin de compte, se rallie à un humanisme là, qui part, dit-il, du peu d'être que nous découvrons en nous. Puis il insiste sur les limites de l'homme. Alors, il renonce à une impossible innocence, puis se résigne à une culpabilité mitigée. L'idéal nouveau, culmine où? On met ça dans l'œuvre d'art, donné comme exemple, assez peu convaincant d'ailleurs, de révolte. Et Albert Camus devient, il me semble, un peu décevant, car enfin, faudrait choisir, ou bien son humanisme est un divertissement, les œuvres d'art, etc., etc. Qu'on fasse des beaux vases et puis des belles œuvres d'art, moi j'aime beaucoup les œuvres d'art, mais c'est pas la fin du monde. On se distrait avec des œuvres d'art. Au besoin, on les revend puis on donne l'argent aux pauvres. On peut... Me semble que la morale de Camus n'est qu'une commodité. C'est un vague art de vivre. Je veux pas blesser personne. J'aime Camus. J'aime son doute et son angoisse. Je la partage même. Mais le Christ est là devant moi. Avec moi et en moi. Alors, ou bien on reste un militant, puis on entend mourir irréconcilié avec cette existence absurde. C'est ça, Camus, puis c'est ça pour tant de gens. Mais je le demande, comment cet état violent, ce déchirement toujours à vif qu'est la révolte, est-il compatible avec le plus petit bonheur? Comment peut-on être fasciné par l'inutilité finale de tout effort humain? Voyons donc. Comment peut-on être cette espèce de forçat, là, aux yeux crevés dont parle Malraux, dans la condition humaine? Ce n'est que sous le fouet que vous le déciderez à tourner la meule, dit-on. Il faut donc s'imaginer être heureux, peut-être? Voyons donc. On s'imagine pas être heureux. On est heureux avec Dieu, avec Jésus-Christ. Le comprendra-t-on? On peut en effet imaginer tout ce qu'on veut, mais peut-on penser être heureux sans Dieu? Voyons. Hitler, Pol Pot et tout ça. Mon Dieu. D'accord, vivre en s'imaginant être heureux, c'est peut-être une solution, mais elle ne dure pas bien longtemps, à mon avis. La sagesse vaut mieux que la folie, dit-il. Et Camus a bien raison de ne pas renoncer au bonheur, mais alors, faudrait pas pour cela renoncer à la révolte, attitude dont son enquête à travers l'histoire a illustré le caractère inviable et incohérent. C'est incohérent. Une révolte constante qui ne mène qu'à une autre révolte. Alors, quoi penser de la révolte de Camus? Ben, il faut admettre que la révolte n'a pas dévié. La mise à mort de Dieu dans la conscience des hommes est une entreprise qui vise l'absolu puisqu'elle le met en question, hein. Oh. Elle a pour contrepartie la divinisation de l'homme et toute la démesure qui en résulte. Et chacun croit qu'il jouit à la fois de la toute-puissance et de l'innocence de Dieu. Quelle imagination invraisemblable. Et chacun tue dans l'innocence et s'érige en juge dernier de ses actes. Alors on voit des Morgenthaler qui tuent dans l'innocence. Il n'y a rien là. La Genèse l'avait dit. C'est beau la Genèse quand on y pense, ce livre. Ils voudront être comme des dieux. Et il me semble qu'il y a beaucoup de naïveté à s'étonner que des révoltés métaphysiques manquent de sagesse. La volonté de puissance qui se trouve à l'origine de cette expédition démesurée contre le ciel, dit Camus, ne doit pas normalement développer des réflexes de mesure. Pour être, écrit Camus, l'homme doit se révolter, mais sa révolte doit respecter la limite qu'elle trouve en elle-même. D'accord. On peut précisément se demander si la révolte est de soi limitée, et comment sera-t-elle à la fois un moteur et un frein? L'histoire prodigieuse qui est évoquée ici, j'ai mis Camus, est l'histoire de l'orgueil européen. Mais c'est Camus lui-même qui a écrit dans le mythe de Sisyphe, le spectacle de l'orgueil humain est inégalable, qui sème le vent, récolte la tempête, hein, on connaît ça. Il écrit ça, mais il est temps d'examiner la formule, où Camus a concentré tout son espoir, quand il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Est-ce que c'est d'une solidité vraiment cartésienne? Les révoltés sont en effet tombés dans les bras les uns des autres comme prévu, mais ce fut pour s'égorger. Qui oserait me dire le contraire? Je vous ai dit qu'aujourd'hui à la messe, à l'évangile, Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement, puis son principal disciple, Saint Jean, a écrit une très belle chose, qui est à la messe aujourd'hui, qui est aussi à la messe aujourd'hui. De beaux textes, c'est gratuit, hein. Ce sont des spectacles qui nous sont donnés dans nos églises, malheureusement pas toujours bien célébrés, mais il y a des bonnes célébrations. Et ce beau texte, j'espère qu'il sera bien lu dans toutes nos églises. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres? Puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Mais les révoltés comme Camus, je vous le répète que j'aime beaucoup, parce que je me sens son frère. Mais les révoltés se montrent gênés, eux, par le Christ, ces révoltés-là. Et nous sommes nous-mêmes parfois gênés par le Christ, nous chrétiens. Combien de fois nous disons au Christ, sans le lui dire, « Jésus, lâche-moi. Assis-toi dans ton coin avec ton évangile. Moi, je sais quoi faire. Je sais le lire et l'interpréter, moi. Ça m'arrive. Je ne veux pas. C'est trop dur. » Le Christ est venu sur la terre pour assumer dans l'amour le scandale très réel de la souffrance et il trouve plus expédient ces gens-là, plus expédient d'ignorer celui dans lequel le christianisme, sans lequel le christianisme n'est rien. Même nous, catholiques, nous sommes comme ça. Ça nous arrive. Or, les incroyants, mais qu'ils sachent que le visage de Dieu s'est précisé pour nous dans les traits du Christ et nous devrions l'apprendre nous-mêmes, que notre Dieu, dont on vient célébrer la naissance et dont nous célébrons la divinité dans l'épiphanie, que notre Dieu est mort pour nous et avec nous et qui s'est défini l'amour, comme vous venez de l'entendre. Dieu, l'accusé, en somme, était condamné d'avance. On a écarté certaines pièces du procès et l'on a retenu que les désordres du monde, qui apparaissent ainsi comme des crimes, alors la cause de Dieu devenait indéfendable. Et c'est pourquoi dans Dostoïevski, le Christ se tait devant le grand inquisiteur. Un procès. L'actualité ne nous en fournit que trop d'exemples, est d'autant plus spectaculaire et bruyant que plus truqué. On en a vu récemment. Tout fait penser que les juges de Dieu, ceux qui disent que Dieu est cruel n'ont pas la conscience tranquille. La tranquillité, le révolté ne l'obtient, nous le voyons aujourd'hui, que par la mort de sa conscience. Il fait mourir sa conscience. Soit qu'il cherche l'oubli dans l'action, de toutes sortes, l'argent, etc., les courses automobiles, puis les parties, puis le sport... Soit qu'il mine l'obéissance à Dieu par la soumission inconditionnée à un dictateur ou un gourou. Soit qu'il généralise le crime en sorte que la culpabilité devienne la chose du monde la mieux partagée. Hein? Alors, on régénéralise le crime. L'avortement est une excellente chose, puis après tout, il faut que tu te fasses avorter, puis fais-toi avorter. Incroyable le monde dans lequel nous vivons. Non, la révolte contre Dieu n'a pas été un acte innocent. Et si le monde où nous vivons se trouve impuissant à fonder une morale, c'est qu'il a les mains sanglantes. Et que sur un premier crime, on ne peut fonder que des crimes. Je vous le répète, vous me direz que je suis obtus, borné. Mais pensons simplement aux millions puis aux millions d'enfants qui sont tués de nos jours dans le sein de leur pauvre mère, qui ne savent peut-être même pas ce qu'elles font, ou qui préfèrent peut-être ne pas le savoir. Mais alors pourquoi ne pas avouer que l'humanité s'est engagée sur une fausse route? Non, Camus n'a pas faussé compagnie à ses contemporains. Il écrit « Les foules au travail, lassées de souffrir et de mourir, sont des foules sans Dieu. Notre place est dès lors à leur côté. » Mais Camus écrit-il pour suivre la foule ou pour lui indiquer son chemin? Le révolté est plongé dans une révolte là qui est un refus crispé. L'amour sous toutes ses formes, au contraire, c'est acceptation, détente, rayonnement. C'est ce qu'il faut vivre avec le Christ en nous. Sous le soleil noir du révolté, quelle fleur pourrait germer? Quelle fleur surtout peut s'épanouir, je me le demande. La révolte est suffisance raisonneuse et hermétique. Mais l'amour nous initie à un mystère profond. Il peut nous ouvrir de proche en proche les portes merveilleuses de tous les mystères. Non, la révolte est orgueil. Camus a reconnu ses limites, d'ailleurs. Au nom de l'humanité, il se targuait face à Dieu d'une innocence qu'il estime finalement mensongère. Ainsi, la vie se charge d'apprendre à chacun de nous qu'il est pécheur. Et que loin d'être en droit d'exiger de Dieu des comptes, c'est à lui, peut-être, à chercher dans un monde désormais vide de Dieu quelqu'un à qui l'on puisse demander pardon. Oui, le Christ s'est révolté. Et avec lui, nous devons nous révolter, mais dans l'amour. C'est la révolution de l'amour. Je me suis inspiré pour cette émission d'André Blanchet. Dans le premier tome de ses livres publiés il y a bien longtemps chez Aubier, La littérature et le spirituel. Je me suis inspiré aussi d'autres livres. Pierre de Boisdeffre, Métamorphose de la littérature, de Proust à Sartre, deuxième tome, et de bien d'autres choses.